Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas,
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible!
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous!
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là, tu sais.
This is Cinérama.
Bonjour Cinérama l'été, c'est une émission un peu plus débraillée, en short et en tongs si l'on peut dire. Alors si on continuera à parler de films qui font l'actualité, sortant ça, hein, ça sera aussi l'occasion de parler de tous les cinémas et de s'offrir des tranches de jeu. Alors il y aura des blind tests sortis du frigo, c'est-à-dire que je vais reprendre des blind tests des précédentes émissions, des blind tests que vous auriez pu manquer hein, pendant la saison, et puis aussi des quiz sur le cinéma, mais pour cela, on attendra la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est une émission de transition avec le dernier film de Park Chan-wook qui était en compétition à Cannes, le film gore de Sadness. Et puis toi, Manu, tu vas entamer une série qui va durer eh bien, tout l'été.
Je vais entamer un cycle, oui, en neuf épisodes, on pourrait dire, autour de la bande originale de films, enfin, autour des films populaires italiens. Et à chaque fois, j'évoquerai un compositeur de musique italien. Relatif donc au film dont je vais parler à chaque fois.
Mais nous commençons avec les sorties de ce mois de juillet.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Nous aurons l'occasion, hein, durant cette saison estivale de Cinérama, de vous parler de quelques sorties, histoire de vous donner un peu le goût d'entrer dans une salle de cinéma. Mais on sera loin de privilégier donc l'actualité. Voilà pourquoi il est bon de pointer hein, les films qui sont attendus durant ce mois de juillet. Alors les plus gros cartons de l'été seront comme toujours eh bien, pour les films d'animation et puis les films de super-héros.
Tichanu Kung Fu pour Smoochie Smoochie.
Côté film d'animation, on a Les Mignons 2 sur les écrans dès le 6 juillet, histoire de bien moissonner les places hein, durant tout l'été. Alors avec ce nouvel opus, on sera dans une ambiance années 70 disco et on en apprendra davantage et bien sûr Gru. Un peu plus tard, pour les plus jeunes, il y aura Mia et moi. Et à la fin du mois, Crypto et les super animaux. Là, on y voit le chien de Superman qui va devoir sauver son maître. Le 6 juillet, on a le documentaire Fleuve sur Ennio Morricone de Giuseppe Tornatore, et puis le dernier Ozon hein, qui s'amuse avec une œuvre de Fassbinder, Les larmes amères de Petra von Kant. In my room. Le premier blockbuster sera Thor, Love and Thunder de Taika Waititi sur les écrans le 13 juillet. Chris Hemsworth rempile avec à ses côtés Natalie Portman qui a les mêmes pouvoirs, l'égalité homme-femme. Eh bien, ça existe chez les super-héros, c'est tendance même. Alors pour ceux qui sont allergiques aux nions et préfèrent les bons mots, on aura droit au dernier Woody Allen, Rifkin's Festival. On a l'impression que le réalisateur américain ne s'est pas foulé. Hein. Il nous présente un couple d'Américains qui se rend au festival du film de Saint-Sébastien. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français, tandis que son mari tombe amoureux d'une belle espagnole. Le 13 juillet, on ne va pas confondre la nuit du 12 de Dominique Moll avec les nuits de Mashhad de Ali Abbasi qui a valu à son actrice Zahr Amir Ebrahimi de remporter le prix d'interprétation à Cannes. Des comédies, elles sont prévues, hein, évidemment. Il y a Menteur d'Olivier Barou, le réalisateur des Tuches, mais surtout la petite bande de Pierre Salvadori qui s'intéresse à des enfants qui foutent le feu à une usine.
Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie d'une bande.
Samy et moi, on va foutre le feu à l'usine Chambon. Il faut quelqu'un qui n'ait pas de copain du tout.
Que personne n'aime.
Super bizarre que vous me preniez dans votre bande comme ça, d'un coup. Merde, ils vont me tuer! Au secours!
Quoi? Ce sera sans doute plus consistant que le premier film de Mélanie Merlan, Mi Lubita Mon Amour, qui nous emmène en Roumanie pour un été passionnel et hors du temps. C'est ce qu'on vous souhaite par ailleurs.
Bonsoir les filles.
Comment c'est que vous parlez français?
Les Roumains, ça me parle toutes les langues.
Ouais. C'est notre voiture.
Retour gagnant pour Park Chan-wook qui a obtenu avec son dernier film le prix de la mise en scène au festival de Cannes, Decision to Live.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Hey June, un inspecteur à tendance un peu obsessionnelle lorsqu'il s'agit d'affaires non élucidées, enquête sur la mort suspecte d'un homme qui serait tombé d'une montagne. Accident, meurtre, suicide, bientôt il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, une jeune femme chinoise et naturalisée coréenne, après être entrée illégalement sur le territoire. Au fil de l'enquête, Hey June commence à se sentir attirée par la mystérieuse veuve. Alors disons-le tout de go, Decision to Live n'est pas le film de Park Chan-wook avec lequel il est le plus judicieux de commencer à s'intéresser à sa filmographie si vous n'avez jamais vu auparavant de film du maître coréen. Commencez donc par sa trilogie de la vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, All Boy, bien sûr. Son chef-d'œuvre de noirceur récompensé par le jury de Tarantino à Cannes en 2003 avec un prix de la mise en scène. Vous pouvez également opter pour son plus gros succès commercial, Mademoiselle, un récit à trois voix en pleine Corée des années 20, qui allie somptuosité de la mise en scène à un scénario aussi retors qu'inattendu. Mais non, Decision to Live, malgré ses évidentes qualités, est un film difficile d'accès qui nécessite de connaître un peu l'œuvre de Park Chan-wook pour la saisir, mais qui nécessite aussi de connaître la société coréenne. Et c'est là où nous, spectateurs français, sommes quelque peu dépassés. Il est en effet question d'immigration chinoise illégale sur le sol coréen, mais aussi de l'histoire des deux pays lors du siècle passé, et l'usage du chinois et du coréen en tant que langue pour les dialogues, notamment ceux qui ont lieu entre Hye-jun et Sor, nous font passer, nous, public francophone, à côté de beaucoup de subtilités de jeu. Il eût sans doute été judicieux de la part des distributeurs français de composer des sous-titres en deux couleurs pour nous permettre de différencier vraiment les dialogues entre chinois et en coréen. Si l'enquête ici compose une grande partie du scénario, c'est l'histoire interdite entre le flic et la suspecte qui est vraiment au cœur du film. Mais contrairement à Basic Instinct par exemple, l'histoire mêle rapidement romance et mélodrame au suspense de l'enquête. De même, après un Mademoiselle très charnel qui faisait la part belle aux amours saphiques et aux scènes de sexe, Decision to Live, lui, opte pour une vision platonique de l'amour aiguisée d'une dimension tragique comme celle qui traversait Old Boy. Pour incarner ce couple d'amants maudits, Park Chan-wook a fait appel à deux acteurs de renom, Park Hae-il, qui interprète l'inspecteur Pugnace, un comédien coréen très reconnu, même si on le connaît assez peu par chez nous, avec 20 ans de carrière, une tripotée de prix d'interprétation et un rôle dans l'un des films les plus importants de ces 20 dernières années, à savoir Memories of Murder de Bong Joon-ho. À ses côtés, l'actrice Tang Wei, initialement de nationalité chinoise, elle a dû demander à devenir hongkongaise pour pouvoir continuer à travailler après avoir été banni de la vie culturelle et médiatique par le gouvernement chinois suite au rôle de traîtresse qu'il a rendu célèbre dans le très sensuel Lust Caution de Ang Lee. La lumière qui éclaire ces comédiens est extrêmement travaillée par Park Chan-wook, illumine notamment leurs yeux de façon très spécifique pour qu'ils aient en permanence une lueur dans la rétine dont on ne sait si elle est censée être inquiétante ou amoureuse. Auréolé du prix de la mise en scène à Cannes cette année, Decision to Live brille en effet par sa réalisation, mais déroute également. Cette réalisation, elle est extrêmement précise, elle est clinique, même elle est habitée, et elle sert à merveille un scénario, comme d'habitude, chez Park Chan-wook, particulièrement cruel, avec des touches d'ironie. Cependant, on regrette tout de même que Park Chan-wook complexifie autant la mise en scène entre le mélange volontaire des temporalités, la symbolique des faux-semblants avec des jeux de reflets, de miroirs et l'envie de proposer une idée différente à chacun des plans qu'il filme. Cet enchaînement de pirouettes visuelles aboutit parfois à un trop-plein d'informations surlignées d'une musique omniprésente, comme si le réalisateur avait peur du vide. Mais malgré ce foisonnement qui s'avère cette fois en effet un peu indigeste, la grâce du cinéma du grand Park Chan-wook demeure quand même inégalable.
Decision to Live est en salle depuis le 29 juin. Ceux qui l'ont vu à Gérardmer ont estimé que sa vision pouvait être insoutenable. Nous parlons maintenant de The Sadness.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Toute ma vie, j'ai cru que si je m'occupais de mes affaires, personne ne ferait attention à moi. Personne ne me ferait de mal. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que c'était faux.
The Sadness de Robert Jabaz s'est fait remarquer au festival du film fantastique de Gérardmer en ce début d'année et n'a cessé de revenir dans certaines discussions et autres informations sur son contenu qui ont perlé depuis. Alors s'il n'a rien remporté, il a néanmoins fait le buzz grâce à son ultra-violence et son aspect radical. Bon, malheureusement, on ne sait que trop bien que les sélections et les prix à Gérardmer ne veulent plus dire grand-chose depuis Belle Lurette, exception faite de l'exceptionnel Bon Tomahawk de S. Craig Zahler en 2015. Alors The Sadness, avec son titre qui correspondrait plus à un mélodrame existentiel britannique, est-il à la hauteur des quelques rumeurs et de l'attente créée et décuplée par la publicité qui le vend comme une expérience littéralement traumatisante. Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, Taïwan, et par extension la Chine, finit par baisser sa garde au vu des frustrations engendrées. C'est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l'esprit. Les gens deviennent violents, vicieux, lubriques et ne trouvent la joie que dans le massacre, le viol ou toute autre forme de dégradation impliquant des corps malmenés et mutilés. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, et au milieu de cette folie contagieuse, un couple va tout tenter pour se retrouver dans une ville à feu et à sang. On l'entend, hein, rien d'original dans ce pitch de départ qui en veut un autre, mais qui fait surtout penser à celui de The Crazies de George Romero, connu sous le nom opportuniste de La Nuit des Fous Vivants chez nous, Romero étant le réalisateur de La Nuit des Morts Vivants. Et comme d'habitude, c'est jamais bon signe quand on se fait mettre en parallèle avec l'œuvre du grand George, car il a toujours eu cette faculté qu'ont les grands cinéastes de tout traiter en profondeur dans leurs travaux. N'est-ce pas, Zack Snyder ? The Sadness va donc agiter les codes du film de genre pour nous parler plus intrinsèquement de son pays, de sa gestion, des autorités pas vraiment compétentes et d'une société qui est déjà en train de s'autodétruire dans la joie et la bonne humeur avant même que le premier coup de hache ou de rein perpétré dans le corps supplicié du voisin. Le début du film fait bien évidemment étonnamment écho à ce qu'on a vécu ces dernières années. Un scientifique essaie de prévenir la population du danger d'un virus qui est bien plus dangereux qu'une grippe, tandis qu'un youtubeur au trait poupin lui coupe la parole pour lui rétorquer qu'il trouve étrange qu'on fasse peur aux gens avec une menace virale pile pendant une année d'élection. Il dénonça le fait que le virus serait politisé. Le voisin du héros critique l'attente dans les hôpitaux, le fait qu'on lui dit que pour guérir il faut rester à la maison pour se reposer, et qu'à ce compte, lui-même pourrait être médecin. Il surenchérit en disant que tout ce que l'on entend aux infos, la pandémie, le virus, c'est un canular de la part de voyous qui en font tout un plat pour faire baisser le prix des actions. Alors soit, mais qu'est-ce que le réalisateur propose comme réflexion plus approfondie ? Alors il y a un plan qui s'attarde longuement sur des masques jetés par terre. Un virologue dit qu'il a tenté d'alerter les gens pendant plus d'une année sur la mutation du virus, mais que plus personne ne croit en rien car tout le monde pense que tout est politisé, annihilant de facto toute vérité. Bon, il faut dire que si le virus n'avait pas le nom d'un chipmunk, parce qu'il s'appelle Alvin, on aurait peut-être plus peur. Mais bon, le nôtre avait bien le nom d'une bière, donc pas de faux procès pour The Sadness.
Le virus n'affecte pas du tout l'imagination, au contraire, il la stimule. Il vous fait faire les pires trucs auxquels vous pensez.
Derrière les hectolitres de sang déversés, la critique est terriblement rachitique. Un homme tente dans le métro d'engager la conversation avec la copine du héros, laquelle l'envoie paître en lui disant que s'il continue, elle va l'accuser d'harcèlement sexuel. Il râle dans son coin, se plaignant que les gens ne parlent plus. Alors, le réalisateur semble nous dire, par ce personnage, que la rage ne libère pas, que la violence n'est pas une solution qui rend heureux, quand bien même on pourrait comprendre la frustration de cet homme. Une obèse devenue enragée dit qu'avant d'attaquer quelqu'un, qu'elle a toujours eu du mal à se faire des amis, alors qu'en fait, elle avait juste besoin de rencontrer les bonnes personnes. Bon, alors paradoxe étonnant, le film a beau enchaîner les scènes très gore et qui se veulent dérangeantes, notamment mêlant sexe et ultra-violence, il ne choque pas vraiment. La faute sûrement à son rythme régulièrement planant, alors que le générique de fin fait éclater du death metal, nous rappelant qu'on est quand même censé avoir vu un film fun. Alors on ne sait pas trop sur quel pied danser, si on est censé apprécier ce que l'on voit ou si on est censé être tétanisé. Alors manque de peau, le fait qu'on ne s'attache absolument jamais aux personnages aggrave cette impression. Ils sont tous fades ou jamais sympathiques, à commencer par le couple qu'on va suivre pendant 1h30. Alors pour que la rage éclate de façon efficace, il aurait fallu plus d'empathie et non pas cette tristesse molle annoncée pourtant dès le titre.
Je te lâcherai pas tant que je t'aurai pas baisé dans tous les sens.
The Sadness est en salle depuis le 6 juillet. Durant tout cet été, nous allons ressortir du frigo des blind tests hein, que nous avons déjà donc éprouvé durant les différentes saisons de Cinérama. Et j'ai décidé de commencer avec un blind test qui colle si bien à l'été puisque c'est les films qui se déroulent sur la plage. Alors soit eh bien, il s'y passe des choses terrifiantes, soit au contraire, eh bien, il s'y passe des choses plutôt agréables. Ça peut être simplement de la drague, on y joue de la guitare, que sais-je, voilà.
Ça peut passer de Romère aux Dents de la Mer, en gros.
C'est ça, de Romère aux Dents de la Mer. Voici la ressortie du blind test spécial plage.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Des films qui se déroulent soit sur la plage, soit la baignade est plutôt déconseillée, soit eh bien, elle est plutôt agréable. Et ça va être peut-être du plus facile au plus difficile.
Cause du décès, attaqué par un requin.
Tiens.
Ah, c'était trop facile, évidemment.
C'était le temps de la mer.
Oui. Film de 75 de Steven Spielberg, encore un facile dans un autre style.
Tout le camp lui est passé dessus.
Oh.
T'es jamais faite, toi ?
Ah non, moi non.
Tiens donc, pourquoi ça ?
Je marche un peu sur des œufs avec les femmes parce que j'ai eu une année très difficile sentimentalement. Alors.
Moi aussi, j'ai eu les polyvalents dans mon salon.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme, et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors, j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider.
Comment ça ?
Ouais, j'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis l'Adagio d'Albinoni, j'ai avalé deux tubes de laxatif, et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.
On aurait pu choisir plusieurs extraits, évidemment. Ça a été trouvé. Hein.
Ah bah, les bronzés de Patrice Lecomte.
Film de 78. Encore un, normalement quelque chose de facile.
27 banques en 3 ans. Mon Dieu. Tout le travail en 90 secondes. Et personne ne se fait tirer dessus. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est une équipe solide de professionnels.
Ouais, ils bougent bien.
Tu parles. Ils ont une parfaite maîtrise de l'espace. Et ils se cantonnent seulement au guichet.
Ils s'attaquent pas au coffre ?
Non, c'est pas ce qu'ils veulent, ils sont pas avides à ce point-là.
C'est pas con, ça ferait gaspiller du temps.
Et ça, t'as tout compris. C'est Reagan qui fait le chauffeur. Toujours une voiture volée. Il laisse le moteur tourner, là, sur le trottoir. De loin, elle paraît bien garée. Et après la fuite, ils s'en débarrassent et disparaissent. Comme la virginité un soir de surboom. Bouffé par la nature. Psst.
Ah, petite blague aussi, hein. Mais c'est pas les mêmes. Ça a été trouvé par Marie.
C'était Point Break.
Oui. Avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, oui. Grand succès des années 90.
Grand jeu d'acteur aussi. Hein.
Et qui a fait l'objet d'un remake d'ailleurs.
Très mauvais.
Très mauvais que tu avais chroniqué, voilà. Manu.
Quatrième extrait.
Premièrement, Charlie ne nous a jamais présenté de fille.
Si, Camille.
Mais non, il était en cinquième, ça compte pas. Deuxièmement, et... enfin, je sais pas, moi, ça crève les yeux. Tu vois bien que Martin est son petit ami.
Mais enfin, ça fait un an qu'ils se sont pas vus.
Justement, à cet âge-là, on se fâche pas comme ça, sauf pour des raisons sentimentales.
Mais enfin, Charlie fait du foot.
Troisièmement, et ça c'est l'argument qui tue, Charlie et Martin ne dorment pas dans la même chambre. On n'a jamais vu des ados faire chambre à part, sauf s'ils veulent cacher quelque chose.
Tu dis n'importe quoi, tu affabules.
Alors ?
Tu affabules.
Oui, on est dans un film français, Marine. Donc, ça n'a pas été trouvé. Alors, Valeria Bruni Tedeschi, qui...
Un beau dimanche, non, c'est pas ça.
Non, qui voit que leur fils est visiblement homosexuel. Il va découvrir l'homosexualité avec Jean-Marc Barr. Crustacé coquillage de Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Mm-hmm. Ah, vous êtes passé à côté. Bon, il faut voir ça. Dernier extrait.
Dents de rasoir.
C'est quoi, dents de rasoir ?
Vous avez vidé le bassin ?
Oui, on a retrouvé...
Vous les avez laissé filer ?
Laissé filer qui ?
Ça va.
De qui parlez-vous ?
Allons, monsieur, allons. Vous êtes totalement inconscient. Détachez-moi ! Détachez-moi !
Si ce n'est pas vous, l'inconscient, monsieur.
Détachez-moi ! Si vous saviez, ils se reproduisent comme des mouches. Il n'y aura plus moyen d'y mettre fin. Bon Dieu, reprenez vos esprits. Que sont devenus les deux jeunes ? Ça, c'est un secret, je peux rien dire. Miséricorde, ils vont tous nous tuer.
D'accord, puisque c'est comme ça, ce sont les flics qui vous arracheront des aveux.
Miséricorde, mais c'était Piranha.
Oui, bravo au film de Joe Dante, donc de 78, qui a fait l'objet d'un remake, encore une fois. Mais plutôt réussi.
Ah, plutôt réussi, oui. Deux remakes même.
Deux.
Parce qu'il y a eu une suite à Piranha 3D, deux.
Ah oui.
Piranha 3D2.
En tout cas, ainsi s'achève ce blind test spécial plage et baignade qui pourra revenir parce que des films, il y en a quand même pas mal.
This is Cinerama.
C'était donc la rediffusion d'un blind test que nous avions diffusé il y a 2 ou 3 ans dans l'émission Cinerama. Si comme moi, vous n'êtes pas très fort en cinéma italien des années 60 ou 70, soyez attentifs à toutes les émissions de cet été de Cinerama, puisque Manu, eh bien, tu vas nous présenter donc un compositeur en lien avec un film italien des années 60-70. Et on commence avec Django.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinerama.
On s'en passera aisément.
Rendons grâce à Quentin Tarantino, hein, sans le succès en 2011 de son Django, celui de Sergio Corbucci, hein, certes culte auprès des amateurs de western européens, n'aurait jamais attiré un public plus vaste. Mais une ressortie nationale à succès et la sortie, là, toute récente, hein, du DVD Blu-ray chez Carlotta, ont remis les pendules à l'heure. L'enfant terrible du cinéma américain aura au moins contribué à réévaluer des œuvres des cinéastes fortement vilipendé à l'époque par la critique et aujourd'hui défendu par ces mêmes critiques parfois. Alors bien sûr, tout le monde peut changer d'avis, mais une question me turlupine. Les films ont-ils parfois été réellement visionnés dans de bonnes conditions ou tout simplement vus ? Dans le cas de Django, hein, si le film a été vu, les spécialistes de la plume sont tous passés à côté d'un véritable chef-d'œuvre mortifère au lyrisme sec. La simplicité du scénario a dû jouer largement en sa défaveur. Pourtant, cette aridité narrative, hein, à la limite de l'abstraction, porte en elle toute la solitude, le désespoir, le cynisme du personnage éponyme. Et elle ne fait qu'amplifier la forme baroque et constamment inventive. D'ailleurs, le scénario ne tient pas à grand-chose. Hein. Tout est une question de style. À la frontière du Mexique, hein, de bandes rivales s'opposent. Le major Jackson et sa horde de racistes cagoulés. Tiens, là, Tarantino a repris un peu la même chose. Et le général Rodriguez, entouré de ses fidèles révolutionnaires. Après avoir sauvé une jeune femme, Django débarque dans un village fantomatique où ne vivent que quelques prostituées et le patron du saloon. Dans ce lieu désert et boueux, Django décide de mettre un terme à la terreur institué par les deux clans. Alors après trois westerns honorables, hein, de facture très classique, hein, dont Le Justicier de Minnesota et Ringo Pistolet d'Or, Corbucci signe le premier chef-d'œuvre du western italien, supérieur à mon sens au premier Leone. Esthétiquement splendide, on doit, notamment grâce à la photographie de Enzo Barboni, Django étonne par l'efficacité de son scénario et sa mise en scène, à la fois épurée et baroque. Django, sorte d'ange exterminateur venu remettre de l'ordre dans un monde corrompu, traîne sa silhouette nonchalante dans un No Man's Land putride. Corbucci transgresse les codes du western hollywoodien et réalise une œuvre singulière d'une violence inouïe pour l'époque, qui baigne d'ailleurs dans un climat nihiliste. Alors c'est aussi un film enraciné dans ses traditions latines par ses excès, sa poésie macabre, sa violence cathartique et son humour trivial. Et puis aussi, bien sûr, sa musique signée par Luis Enrique Bacalov, qui introduit donc cette série de chroniques dédiées aux compositeurs importants du cinéma populaire italien. Alors, né en Argentine en 1933, hein, Bacalov a signé plus d'une centaine de musiques de films, essentiellement en Italie, hein, du cinéma bis au plus prestigieux. Alors, il a écrit la musique de films aussi variés que Milan Calibre 9, Le Polar de Fernando Di Leo, L'Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini, Texas, western de Tonino Valeri, La Cité des Femmes de Fellini, ou encore même Le Facteur de Michael Radford, plus proche de nous, pour lequel il a remporté un Oscar en 1996. Mais le thème et la chanson, hein, de Django reste peut-être l'un des morceaux les plus populaires et emblématiques de sa carrière. Le morceau est interprété par Rocky Roberts, chanteur italien d'origine américaine, de country et de rhythm and blues. La qualité des arrangements et la voix imposante et grave rappellent le meilleur de Burt Bacharach. Your life. Ça ne suffit pas pour vous donner envie de voir ou revoir le film, je rappelle qu'il est interprété par Franco Nero, célèbre pour ses yeux bleus azur. Le film est régulièrement disponible sur les plateformes, guetté souvent Ciné+, notamment Ciné Classique ou Ciné Club, et aussi, alors je le répète, il vient de sortir, enfin il y a 6 mois, en Blu-ray et DVD chez Carlotta.
Merci Manu, on se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau réalisateur et puis un nouveau film italien. L'été, c'est aussi le moment des festivals, on a l'habitude de parler de celui de Arles, alors c'est parti.
This is Cinérama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Comme chaque année, les rencontres d'Arles proposent un programme varié hein, qui évidemment fait la part belle à la photographie, mais fait également eh bien, des incursions dans le cinéma, qu'il s'agisse des auteurs ou des thématiques mises en avant. Ainsi, cette année, on pourra voir Babette Mangolte qui développe un langage photographique et cinématographique fondé sur la subjectivité de la caméra et le rôle central du spectateur dans le dispositif et puis la relation du corps humain à l'espace. C'est à l'église Sainte-Anne. On peut pointer également la Belge Catherine de Blauer, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui réalise des clichés sans appareil, soit donc des collages, hein, et elle se rapproche ainsi du photomontage ou du montage cinématographique. C'est au lieu La Croisière avec d'autres photographes. Bienvenue dans le désert du réel à la collection Lambert, part d'une phrase prononcée par Morpheus dans Matrix. Le simulacre est vrai.
Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
Les artistes exposés nous invitent à douter de la nature des images que nous rencontrons. Et puis ailleurs, à Marseille, c'est Happy Chapong Werazetakul qui est mis en avant avec le court-métrage Feu d'artifice, dans lequel la mémoire côtoie la lumière ou les apparitions fantomatiques. C'est au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais c'est intégré hein, aux rencontres d'Arles. Ces rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 25 septembre, à Arles évidemment, mais aussi ailleurs, on l'a entendu. N'hésitez pas à vous rendre sur rencontre-arles.com pour eh bien, découvrir hein, le copieux programme de ces rencontres photographiques.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine, Manu, avec un nouveau film italien.
Oui, ce sera un giallo, L'étrange vice de Miss Wars de Sergio Martino.
On parlera aussi de Hurlement de Joe Dante et de To Kill the Beast. Et on aura eh bien, des petits jeux et des quiz pour l'émission de Cinérama la semaine prochaine.
Qu'est-ce que la matrice ? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire. créée dans le seul but de nous maintenir sous contrôle jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci.